Charles Van Lerberghe, Immoralité légendaire. Autant les souhaits s'accomplissaient aussitôt qu'ils étaient exprimés, et où il semble que les bêtes parlaient encore, j'avais une nourrice allemande qui était une bien extraordinaire personne. Bien avant de venir en Flandre et d'entrer au service de ma mère, elle avait été dame d'honneur à la cour de Saxe et en sa qualité de duègne chargée de l'éducation des jeunes princesses royales. Il en résultait qu'elle était très laide, très dévote, très prude, et qu'elle avait sur toute chose, notamment en ce qui concerne la morale et le savoir-vivre, les idées les plus absurdes et les plus arriérées du monde. En revanche, elle connaissait toutes les belles histoires qu'adorent les enfants, non seulement celles de Perrault et Madame d'Aulnoy, qui savent les nourrices de France, mais encore celles des frères Grimm, histoires de fées, de gnomes, de spectres, d'enchantements, de métamorphoses merveilleuses. Quelque insipide que fût le fade mélange de vertu que ma nourrice jugeait nécessaire de verser avant de m'y plonger dans ce bain de clair de lune allemand, mon âme y nageait avec délice. J'adorais ces histoires. Un jour, comme je devenais grand et sage, il m'arriva, à propos d'une d'elles, peut-être à cause de sa beauté même, une aventure assez violente et fâcheuse que je m'en vais vous raconter. Si vous avez eu la chance d'avoir une nourrice allemande, vous connaissez certainement l'aventure de Froschkönig, Order der Seinen Heinrich, encore que cet excellent serviteur n'y joue qu'un rôle tout à fait épisodique et superflu. C'est une merveilleuse histoire dont une belle et jeune princesse est naturellement l'héroïne et le héros une grenouille ou peut-être un crapaud. J'ai toujours été d'avis que réellement ce ne pouvait être qu'un crapaud, créature plus héroïque, plus épique qu'une grenouille et partant plus redoutable, comme un véritable héros doit l'être. Ma nourrice était d'un avis contraire, mais ses avis m'apportaient fort peu, comme vous allez voir. Je m'en moquais supérieurement et ne lui demandais que des faits tout simples, c'est-à-dire que l'histoire, sans commentaire. J'avais en effet au sujet des commentaires de l'histoire en général et de celle-ci en particulier les plus grandes défiances. Elle me conta donc qu'il y avait autrefois un roi dont les filles étaient très belles, mais dont la plus jeune était si belle que le soleil, qui pourtant a contemplé tant de beauté sur la terre, s'en émerveillait chaque fois qu'il lui rayonnait sur un visage. Près du château de ce roi, il y avait une profonde et sombre forêt, et sous un vénérable tilleul, à la lisière de cette forêt, un étang que ma nourrice, dans son langage toujours suggestif de miracle, appelait Einbrunnen, une fontaine. C'est sur le bord de cette fontaine que la jeune princesse, son héroïne, alla s'asseoir un jour. Je ne connus jamais son nom, et peut-être ma nourrice trouvait-elle peu convenable de me le dire. Je n'avais qu'à savoir une chose, c'est qu'elle était belle, si belle que le soleil en était jaloux. Je n'en demandais d'ailleurs pas davantage. Qu'importe le nom d'une princesse dont il est dit qu'elle ressemblait au soleil. La princesse venait donc de s'asseoir dans les hautes herbes et les fleurs de la berge, et n'ayant en son âme d'enfant d'autre souci que le jeu, elle s'était mise à jouer à la balle. Cette balle, une kugel, disait ma nourrice, devait être plutôt un ballon, comme en ont les enfants riches, d'autant plus qu'il était d'or et qu'il portait les armoiries de la princesse, surnommée d'une montée d'une grande couronne royale. On s'imagine le jeu splendide, rien qu'à voir ce ballon d'or jaillir de ses fines mains blanches et voler dans les airs comme une étoile. Malheureusement, les ballons, surtout quand ils sont d'or, ont une fatale attraction pour la terre, en particulier pour les eaux plutôt que pour le ciel. si bien que, peu d'instants, le beau ballon fut dans la fontaine. Oh, je revois distinctement, car les enfants ont les yeux pour entendre et des oreilles pour voir les belles histoires que leur content leurs nourrices, l'air navré et les yeux tout couprés de larmes de la princesse aussi belle que le soleil. Elle plonge son fin bras nu comme un rayon dans la fontaine et aussitôt l'en retire toute saisie, comme si là-bas elle venait de toucher quelque chose de mystérieux. Et de fait, voici que du fond de la fontaine émergent à fleur des eaux ses grands yeux éblouis de voir une si éblouissante princesse, un crapaud. « Mademoiselle, dit-il, ton ballon d'or est là-bas. Je sais où il est, et je m'en vais descendre te le chercher. Mais que me donneras-tu en échange si je te le rends ?»« Ah, mais tout ce que tu voudras, monsieur, répond la princesse, dont le visage rayonne de nouveau. « Tout ce que tu voudras, mes perles, mon bracelet, ma couronne même, car il n'est rien que j'aime mieux que mon ballon d'or. »« Je n'ai que faire de tes perles, de tes bijoux, de ta couronne, répond le crapaud. « Mais voilà ce qui m'ennuie, c'est d'être toujours seul à jouer. Je voudrais une gentille petite camarade de jeu, comme toi, mademoiselle. Si tu veux, nous serons ses camarades. Nous jouerons au ballon ensemble et, quand je viendrai chez toi, nous ferons dînette. Je m'asseoirai à ta petite table, je mangerai dans ta petite assiette, je boirai dans ton petit verre. « Oui, oui, va, mon ami, s'écrie la princesse, tout ce que tu demandes, pourvu que tu me rapportes mon ballon. » Sur quoi, dit ma nourrice, le crapaud plongea avec cet empressement un peu naïf et sans défiance d'un petit paysan à qui une jeune princesse fait l'honneur de demander un objet qu'elle a par mégarde laissé choir dans la cave. « Bah, pensait ce temps la princesse, est-il prétentieux ce petit valet de basse-cour, et qu'importe après tout ce qu'il me demande? Ça demeure au fond de l'eau dans la vase. Ça fait couac-couac en famille. Ça peut en aucune façon devenir le camarade de jeu d'une belle et riche princesse comme moi, qui possède un ballon d'or. Pardon, dis-je à ces mots à ma nourrice, qui venait de me révéler aussi le tréfonds de l'âme de sa belle princesse. Pardon. Ne trouvez-vous pas peu franc et peu honnête que, pendant que ce brave petit homme de crapaud remonte loyalement vers la mi-lumière avec son ballon d'or en main, l'âme de votre princesse descende, elle, vers de bien troubles marécages. Je n'aime pas cette duplicité chez cette fillette. Que les femmes sont donc rouées. Petit bavard, répondit ma nourrice, ne m'interrompez pas aussi sottement. Ne savez-vous pas qu'une princesse de sang royal est toujours une princesse et ne peut penser comme un goujat? Avez-vous trouvé par hasard, tout naturel aussi, les propos sans façon que ce rustaud vient de tenir à cette princesse, alors que les gens de son espèce doivent allégeance de toute éternité à leurs seigneurs et maîtres par le fait seul que ceux-ci sont beaux et nobles et que ce sont roturiers vilains? Et que pensez-vous de cette effronterie d'exiger, et au préalable encore, une récompense pour cette bagatelle? Et sous prétexte qu'elle est de même taille, peut-être de même âge, de prétendre que, camarade de jeu, et d'oser traiter la table d'une princesse de petite table, son assiette de petite assiette et son verre de petit verre. Alors que l'assiette d'une princesse ne peut jamais être qu'une très grande et belle assiette, son verre un très grand verre, et que l'assiette et le verre d'un crapaud ne peuvent être que de tout petits et de tout à fait laids. Reste, monsieur, apprenez que jamais les enfants des riches ne devraient jouer avec les enfants des pauvres. Il faut que chacun reste à sa place en ce monde. Mais écoutez la suite de l'histoire. À peine, poursuivit ma nourrice, le crapaud eut-il rendu son ballon à la princesse, que celle-ci bondit de joie et tout en jouant et gambadant, s'en courut au palais. C'était l'heure du dîner et naturellement ne songeait plus au crapaud. quand celui-ci, élevant sa grosse tête hors de l'eau, lui cria de loin et d'un ton larmoyant: « Mademoiselle, ne cours donc pas si vite, je ne puis courir comme toi. Prends-moi avec toi. » Mais déjà, il ne la voyait plus. Elle avait disparu dans le palais. Là-bas, les grands vitraux de la salle des fêtes viennent de s'illuminer. Sa Majesté le roi est déjà à table. Beaucoup d'illustres seigneurs et de nobles dames ont été invités ce jour-là. Parmi eux se trouve le jeune fils d'un roi voisin qui aspire la main de la princesse au visage de soleil. Voici qu'en ce moment même elle fait son entrée. Elle est vêtue d'une robe de brocart brodée de nénuphars d'or et elle ressemble à une fée. Tous les convives lui font la révérence et admirent son illustre beauté. Elle prend place à côté du roi, son père, et du jeune prince héritier qui, lui, frigide et vêtu de blanc, ressemble à un clair de lune. Les ménestrels du roi exécutent un air de table. La princesse sourit. Un laquais lui présente sur un plat d'or un œuf de vanneau qu'elle casse et déguste avec une petite cuillère d'or. Quand voilà qu'on entend quelqu'un qui lentement monte les escaliers de marbre, flic-flac comme s'il était en chausson, échoue lourdement devant la porte. « Qui donc est là ?» demande le roi à sa fille. « Est-ce quelque géant, quelque brigand qui vient vous chercher et prétend vous emmener dans son repaire ?» Ce roi était un fort brave homme. Il observa en ce moment ma bavarde nourrice, toujours féconde en réflexions morales et qui, depuis un moment, n'en avait plus semé dans son récit. Oui, c'était assurément un fort brave homme, mais il était, il faut bien l'avouer, un peu naïf. C'est ainsi qu'il portait un long manteau royal démodé à grand ramage, comme n'en portait plus guère que les rois de jeux de cartes et ceux des opéras de Wagner. Il était coiffé d'une couronne démesurée, de celle dont se coiffait Charlemagne, les rois à tête carrée, à idée quelque peu restée barbare. C'est pourquoi le roi pensait tout naturellement que celui qui était là, devant la porte, ne pouvait être qu'un géant ou un brigand, et qu'il venait lui ravir sa fille. Déjà, il avait dégainé son énorme épée quand sa fille lui répondit: « Non, mon illustre père, oh, ce n'est nullement un géant qui est là, mais rien qu'un petit crapaud domestique qui m'a retiré mon ballon d'or de la fontaine où je l'avais laissé choir par mégarde, et à qui j'ai eu l'imprudence de promettre je ne sais quoi au lieu de lui abréger un bon coup de pied. » « Ah !» dit le roi en regardant son épée. « Oh, il faut lui donner ce que tu lui as promis, ma fille. » La première vertu d'une princesse, c'est d'être fidèle à sa promesse. La princesse, rouge de honte, s'inclina et fit entrer le crapaud. Celui-ci s'avança gauchement, entraînant les jambes et écarquillant ses gros yeux, éblouis par tant de lumière. Mais il ne salua personne et prit tout de suite l'air familier de quelqu'un qui se sent chez lui. Sa démarche de campagnard et cet air prétentieux lui attirèrent les rires et les quolibets de tous les convives. « Mais ta vie, remarqua spirituellement le jeune prince, voisin de la princesse, qu'avoir son costume à la mode de Hongrie et sa façon gracieuse d'allonger les membres, ce doit être plutôt un zigane qui prétend, grâce à ses charmes et à ses talents de musicien, nous ravir notre gracieuse altesse. » Tout le monde s'esclaffa, mais le roi ne rit pas. La princesse, rouge de confusion, se mordit les lèvres en voyant le crapaud grimper sur sa chaise, escalader la table, s'asseoir sans gêne, confortablement, sur son séant, au milieu de la nappe, parmi les plats et les fleurs. Précisément, il prenait la parole. Il parlait d'une voix claire et cristalline, mais avec un fort accent anglais, et s'exprimait en des termes et avec des façons d'écurie. Mademoiselle, mais s'il te plaît, ta petite assiette un peu plus près de ma gueule, afin que nous mangions ensemble. Oui, ma fille, dit le roi, approche son assiette, comme monsieur le demande. La première, vêtue d'une honnête princesse. Je le répète, me fit de nouveau observer ma nourrice, ces rois de la Nice étaient de braves gens, mais avec leurs costumes de pierre Jean-Cas, leurs obsessions ridicules de géants, leur sagesse à la roi Dagobert, ils étaient parfaitement un peu grotesques. Mais le plus grand tort qu'ils avaient, c'était leur familiarité déplacée avec les vilains. Cette bonhomie démocratique qui devait finir par saper jusqu'aux bases de leur trône. Les vilains en profitèrent, comme de juste, sans leur en savoir jamais le moindre regret. Il en sera toujours de même. Aussi la noblesse d'autrefois, malgré ses fâcheux exemples royaux, n'avait garde de se commettre avec les vilains. Elle avait parfaitement raison. « Oui, répondis-je à ma nourrice, mais vous me ferez, s'il vous plaît, la morale après. J'ai hâte de connaître la suite de l'histoire. » Donc, reprit-elle, la princesse, qui étouffait de honte, ne parvenait plus à achever son œuf de vanneau, tant le visqueux voisinage du crapaud, assis presque dans son assiette, l'écœurait. Elle se leva, et s'excusant auprès du roi et des nobles convives, dit qu'elle désirait se retirer dans son appartement et se reposer. Mais ne voilà-t-il pas que le crapaud s'avisa de dire à son tour, en être sans ombre d'éducation qu'il était, « Oui, mademoiselle, à présent que je suis bien reçue, moi aussi je sommeille, allons faire dodo ensemble. » Entendant ça, la pauvre princesse se mit à sangloter, mais le roi, décidément stupide, fronça les sourcils et recommença sa chanson. Dans la détresse, fidèle à ta promesse, allons, pas tant de manières, princesse. Va te coucher ou je me fâche. La princesse obéit à son illustre père comme c'était son devoir, et tout en versant un torrent de larmes. Et saisissant le bout des doigts, comme elle l'aurait fait avec des pincettes, le crapaud par la cuisse, l'emporta dans sa chambre. Là, elle le laissa tomber dans un coin où il se tint quoi un moment. Mais lorsque la belle enfant eut fini de dégrafer son corsage, et qu'elle apparut à demi nue et plus radieuse que jamais, le crapaud se remit à bouger, et à faire couac, couac. Petite amie, soupira-t-il dans son coin, prends-moi dans tes bras blancs, et mets-moi sur mon ventre, ton ventre satiné et chaud, car le mien est humide et froid comme un glaçon. Voilà ce que le crapaud ose dire, le sale. Et sûrement, en faisant des gestes et prenant des attitudes que jamais personne n'avait osé, devint cet enfant pur comme un lys. Oh, c'en était trop. Aussi savez-vous, monsieur, ce que fit la princesse ? Oui, mademoiselle, répondis-je vivement à ma nourrice, je le devine. Ne vous souvenez plus de la belle histoire fort semblable que vous m'avez racontée l'autre jour, celle de Saint-Julien l'Hospitalier et de Flaubert ? Saint-Julien, qui venait de passer un pauvre lépreux dans sa barque, ne se borna pas lorsqu'il eut passé à le réconforter. Il le prit dans son lit, l'embrassa, le réchauffa de son haleine, le baisa sur la bouche, bref, le traita avec une telle charité chrétienne qu'un miracle se fit. C'était Jésus-Christ lui-même qui l'embrassait, car le lépreux n'était autre que lui. Le crapaud, oh, je l'ai tout de suite deviné, c'était lui aussi. C'était notre seigneur, ou du moins quelque jeune prince charmant que la princesse trouva subitement dans ses bras, et qu'elle venait de sauver de quelque mauvais sortilège par la grâce de son amour. « Fi, monsieur !» s'exclama ma nourrice en pensant s'évanouir. « Qu'est-ce que notre seigneur a à voir dans cette histoire ? Je vous répète que c'en était trop, et que la belle princesse prit bel et bien la sale bête, et de toutes ses forces la lança contre le mur, où elle éclata comme une vessie. Flac ! Bois ! » Ainsi, la justice et la morale furent vengées, et la pudeur et la vertu aussi eurent leur récompense. Le crapaud, en retombant en pièces, se transforma en un jeune et élégant prince, vêtu d'un beau costume vert, qui courtoisement fit sa révérence et dit « Altesse, je ne suis pas un crapaud, je suis le fils d'un roi, qu'une mauvaise sorcière a enchanté et condamné à vivre pendant de longues années dans cette fontaine, sous la forme d'un crapaud. Je le serais sauvé, m'a-t-elle prédit, que lorsqu'une belle princesse m'aurait aimé. En me donnant votre amour, princesse, vous m'avez sauvé la vie. » À l'instant, un somptueux carrosse, attelé de 10 chevaux blancs empanachés, s'arrêta sous les fenêtres du palais. Un laquais descendit du carrosse. C'était son vieux et fidèle serviteur Henri, qu'on appela depuis Henri de Fer, parce que pendant la captivité de son maître, son chagrin avait été tel qu'il avait dû se barder le cœur d'un triple cercle de fer pour en comprimer les battements. Henri annonça à son maître, enfin délivré, que le carrosse était à la porte et qu'il n'avait plus qu'à conduire le prince et sa gracieuse fiancée au château royal où devait se célébrer la noce. L'attelage s'ébranla au grand galop et au bruit joyeux des sonnailles, mais il n'était pas arrivé au premier détour du chemin qu'on entendit quelque chose qui cassait et que le prince, s'imaginant que c'était un essieu qui se brisait, se pencha à la portière. « Oh non, mon maître !» s'écria le fidèle Henri, « c'est un de mes cercles de fer qui éclate dans mon cœur, bondi de joie !» Et 3 fois, ce jour-là, les fiancés entendirent le même bruit. « Voilà l'histoire authentique, » conclut ma nourrice, « telle que Grimm l'a contée et telle que mes aïeuls me l'ont transmise. N'est-elle pas plus admirable ainsi ? Qu'en pensez-vous, monsieur le petit critique ?» « Ce que j'en pense, mademoiselle, dis-je en me redressant de toute ma taille comme un jeune Achille vengeur, ce que j'en pense. Ben, je pense que votre histoire est infâme et qu'il ne manquait vraiment plus que Scaros et ses noces pour récompenser dignement cette noble déloyauté et ce manque de parole, ce crime des crimes qui consistait à assassiner dans son lit un brave et pauvre serviteur à qui on a tout promis. » « Ah oui, c'est infâme. Mais c'est pas trop scandaleux aussi, et je pense que le bon Grimm, qui était homme de bon sens en même temps qu'un savant, ne peut s'être réellement rendu coupable d'une histoire aussi sotte et monstrueuse. « Morble, c'est vous !» criai-je à ma nourrice. Et c'est ici que l'histoire commença sérieusement à se gâter. « Oui, c'est vous, quelque vieille sorcière de votre espèce, pareille à celle qui métamorphosait les beaux jeunes princes en crapauds, qui, avec vos abominables préjugés de morale, avait transformé cette royale et pure histoire en dégoûtante bêtise. Oui, c'est vous, nourrice imbécile et pudibonde, car vous seul en étiez capable, et tout ce que vous méritez en récompense de votre immoralité légendaire, allez, tenez, c'est une bonne fessée sur votre honorable derrière.